Bonjour aux personnes que je n'ai pas encore saluées ce matin. C'est vrai que chacun se sent ici à l'aise dans ce lieu de culte pour louer Dieu, ce que nous avons fait, et aussi pour écouter sa parole, ce qu'il a à nous dire ce matin. Et j'aimerais déjà remercier le groupe de louanges parce que dans les chants qui ont été chantés, j'ai trouvé que c'était un excellent préliminaire au sujet que nous allons aborder. Et c'est vrai qu'on va aborder le sujet du monde invisible. Après avoir abordé les thèmes de Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, eh bien, nous vous invitons à nous arrêter ce matin sur le thème du monde invisible. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu plusieurs chants qui ont proclamé la victoire de Dieu. Et je crois que c'est important que nous gardions à l'esprit, lorsqu'on aborde ce sujet du monde invisible, que Dieu est vainqueur. C'est important parce que c'est une réalité. Et pour nous, c'est aussi ce qui est la base de notre espérance. Donc en fait, dans ce qu'on va aborder, il y aura quatre parties qui seront partagées en deux messages. Moi, je vais vous parler de la réalité et la nature du monde invisible. Ensuite, John va vous parler plus précisément des anges. Et ensuite, la prochaine fois, Dieu voulant, Jean-Paul et Pierre vous parleront de Satan et les démons. Et je vous invite, avant de commencer ce moment de message, de prier pour remettre ce moment à notre Dieu. Oui, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre ce moment, afin que ce soit un moment utile pour ton Église. Nous te le remettons, afin que ce soit toi qui le dirige, que ce soit toi qui nous éclaire, que ce soit toi qui ouvre nos yeux, afin que nous comprenions. Nous voulons te demander aussi ta protection, afin que tu sois réellement vainqueur. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Tout d'abord, l'importance de traiter de ce sujet. Et c'est vrai que, d'une part, la création de Dieu ne se limite pas au monde physique perceptible que nous connaissons, mais aussi parce que ces deux réalités, la réalité du visible et de l'invisible, interagissent. Et c'est vrai qu'en tant que croyants, nous sommes directement concernés par les interactions qu'il y a entre le monde visible et le monde invisible. Et nous allons lire deux versets dans Éphésiens qui nous disent « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » C'est vrai que le verset 13 nous parle de l'importance de connaître dans quel monde au pluriel, le monde visible et le monde invisible, dans quel monde nous sommes afin de prendre les bonnes armes, c'est-à-dire toutes les armes de Dieu afin de résister et tenir ferme. Ce n'est donc pas par simple curiosité que nous nous penchons sur le sujet du monde invisible, mais bien parce que le monde invisible est une réalité spirituelle à laquelle le croyant qui veut résister et tenir ferme est de facto confronté. Par exemple, lorsque nous sommes face à une opposition, prenons l'exemple d'une opposition qu'on peut avoir quand on invite un enfant à participer au club d'enfants. Ben en fait, on est peut-être face à une opposition spirituelle, pas forcément en lien avec la bonne humeur ou le calendrier de notre voisin. D'où l'importance de la prière. De la prière parce que prier, c'est aussi une façon de lutter dans le monde invisible. La réalité du monde invisible. Le monde invisible, même si on ne le voit pas, il est bien réel. En fait, déjà, il faut savoir que le visible et l'invisible existent. Ils sont. Et en Colossiens 1, nous lisons « Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Mais il y a aussi la foi qui nous montre l'invisible. En Hébreux 11, nous lisons « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ou comme l'a traduit Darby, la conviction de celle qu'on ne voit pas. Le monde invisible existe, mais nous ne le voyons pas car nous vivons avec nos limites. Et nos limites, en fait, elles trouvent leur origine soit dans notre nature humaine et dans les limites que Dieu a prévues pour notre humanité, mais elles peuvent aussi trouver leur origine dans le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est un peu comme s'il y avait un voile qui nous cache ce monde invisible. Prenons un exemple. Nous ne voyons pas l'air dans lequel nous vivons. Cette pièce est remplie d'air, on ne voit pas l'air. Et cet air, par contre, en ce moment, il nous sépare, il est entre vous et moi. Mais cela n'enlève en rien la réalité de la présence de l'air, de cet air qui, en ce moment, est entre vous et moi. Tout simplement parce que cet air, nous ne le voyons pas, mais il est réellement présent. De la même façon, nous sommes entourés par un monde invisible qui existe et que nous ne voyons pas. En tout cas, nous ne le voyons pas aussi facilement que le monde visible, comme les murs, les arbres et vous et moi aussi. Maintenant, nous allons voir la question d'exemple qu'il existe dans la Bible, d'anges visibles. L'exemple de, parfois, dans la Bible, on voit des passages qui nous montrent qu'il y a eu une partie du monde invisible qui a été rendue visible. Et je dirais, c'est un petit peu comme une fenêtre ouverte sur le monde invisible. Pour les personnes qui ont eu cette possibilité, c'est comme si le voile qui nous cache ce monde invisible a été enlevé pendant un temps. Rappelons-nous de ce que le prophète Élisée a vécu. Ce que le prophète Élisée a vécu lorsque, traqué par les Syriens, il s'est réfugié dans la petite ville de Dothan. Alors dans cette histoire, Dieu révélait à Élisée, qui était son prophète, les plans du roi syrien, qui était le roi ennemi, et Élisée racontait au roi d'Israël les plans du roi syrien, les plans de l'ennemi. Pour le coup, ces plans n'avaient aucun effet, et cela agitait le cœur du roi syrien, à tel point que lorsque le roi syrien a appris ce que faisait Élisée le prophète, le roi syrien a résolu de faire prendre Élisée. Et c'est dans ce contexte-là que nous lisons ces versets. Donc en fait, Élisée et son serviteur se trouvaient dans cette petite ville de Dothan. Et nous lisons dans Deux Rois, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. » Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Ils sont les deux dans une petite ville, ils fuient. Et puis le matin, le serviteur, il se lève, dans une petite ville donc, et il voit que la ville est entourée. Donc il y en avait tout autour. La ville était entourée de chevaux et de chars. Et le serviteur qui dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, que ferons-nous » Je ne sais pas ce qu'on aurait dit nous à sa place. Et puis Élisée lui répond, « Ne crains point. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de feu, et de chars de feu autour d'Élisée. Lorsque le serviteur d'Élisée a vu l'invisible, j'imagine qu'il a été rassuré. Et je crois qu'on l'aurait été aussi si on avait été à sa place. En effet, ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient contre eux. Mais le monde invisible, nous le savons bien, n'est pas composé seulement d'êtres soumis à Dieu. En Éphésiens 6, Paul nous dit que nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous l'avons lu tout à l'heure. La Bible nous parle à plusieurs reprises de Satan ainsi que de nombreux démons. Et juste un passage qui va nous permettre d'aborder la question de la chute de Satan. Mais avant de lire ce passage qui se trouve dans Ésaïe 14, qui nous mentionne justement la chute de Satan et nous en donne des précisions, je me dois de rappeler une réalité souvent présente dans les prophéties et qui nous aide à les comprendre. Ce texte d'Ésaïe 14, en fait, il s'adresse en premier lieu à l'encontre du roi de Babylone, du dernier roi de Babylone, Belshazzar. Cependant, beaucoup de prophéties ont une double portée. Ici, la première portée est en lien avec la chute prochaine de Belshazzar, dont l'accomplissement est écrit environ 2 siècles plus tard par Daniel. Mais la deuxième portée, c'est une révélation, la révélation de la chute de Satan, chute qui était déjà réalisée dans le monde invisible depuis bien longtemps lorsque cette révélation a été donnée à Ésaïe. Alors nous lisons dans Ésaïe 14, les versets 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Il est intéressant de remarquer que les versets 13 à 15 sont écrits au passé. On peut à juste titre penser qu'ils s'adressent plus précisément justement à la chute de Satan. « Mais tu as été précipité. » Et dans sa chute, Satan a entraîné un grand nombre d'anges qui sont devenus des démons. Mais c'est là le sujet qui nous sera traité dans quelques semaines par Jean-Paul et par Pierre. Alors rendez-vous dans un mois. Ça, c'est pour vous donner envie de revenir. Maintenant, la nature du monde est invisible. Tout d'abord, la supériorité de Dieu sur le reste du monde invisible. C'est vrai que le monde invisible a été créé par Dieu dans le même acte créateur que le monde visible. Il n'y a qu'une création, dont une partie nous est visible et une partie nous est invisible. La supériorité de Dieu sur l'ensemble du monde invisible est établie d'une part parce qu'il en est le créateur et d'autre part parce que Jésus-Christ a remporté à la croix la victoire sur Satan. Et là, nous lisons dans 1 Jean 4, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist dont il est question ici, c'est l'esprit qui est opposé à Christ. C'est l'esprit de l'ennemi de Christ, c'est l'esprit de Satan. Mais ce qui est formidable, c'est que nous avons vaincu l'esprit du monde, non pas parce que nous sommes plus forts que lui, nous en tant que personne, mais parce que celui qui est en nous, Dieu présent dans ses enfants par son esprit, est plus grand et plus fort que l'esprit de Satan. Et maintenant, dernier point, quelle attitude du chrétien face au monde invisible déchu? Ça, c'est un point important quand même, qu'il faut que nous sachions. Et c'est vrai qu'on confond parfois, au sujet de Satan, sa dignité avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Satan a été revêtu à la création d'une dignité, de telle sorte que même l'archange Michel n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Et donc, à bien plus forte raison, nous ne le pouvons pas nous-mêmes. En vertu de la dignité que Dieu a donnée à Satan, il ne nous est pas permis de l'injurier. Et là, on peut lire juste un verset dans Jude. Jude, au verset 9, « L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime. » Cependant, et c'est ça qui est formidable, depuis la croix, Satan est vaincu. Il a perdu toute autorité, dignité, autorité. Il a perdu toute autorité. Il est rendu impuissant. Et si nous lui résistons, il s'enfuit loin de nous, parce que celui qui est en nous est plus grand que lui. Amen. Je laisse la place à John pour la suite.
Donc Philippe nous a parlé en fait que la création était composée quand même d'une partie visible et d'une partie invisible. Alors on ne sait pas toujours exactement où se trouve le lieu du monde invisible, mais comme l'a dit Philippe, le monde invisible est aussi quelque chose qui se mêle, qui interpénètre avec le monde visible. Et en fait, il y a trois choses qu'il nous faut en fait retenir de la réalité de ce monde invisible. La première des choses, c'est que ce monde est peuplé, et c'est là-dessus que moi je vais m'arrêter. C'est-à-dire qu'il existe des êtres que le Seigneur a créés, qui vivent dans ce monde invisible. La deuxième, c'est que ce monde invisible a aussi été la proie du mal, tout comme le monde visible. Et à certains égards, a été affecté, et à certains égards, est aussi un agent du mal, comme il peut être un agent du bien dans le monde. Et ça, c'est encore quelque chose que Pierre et Jean-Paul aborderont la prochaine fois. Et puis, comme vient de le noter aussi Philippe, c'est que ces deux mondes ne sont pas nécessairement totalement séparés les uns des autres, mais c'est que quelque part, ils participent à une seule et même histoire, qui est cette histoire de l'humanité, qui est l'histoire du salut. Lorsqu'on lit l'Écriture, on se rend compte qu'un certain nombre de termes sont utilisés pour ces êtres qui volent, qui sont dans les lieux célestes, qui sont autres que les hommes. Et on lit des mots comme les fils de Dieu, les trônes, les puissances, les autorités, les principautés, les veilleurs, ça c'est un terme qui est utilisé dans Daniel, des esprits, c'est utilisé dans l'épître aux Hébreux, les saints et domination. Il y a d'autres termes aussi comme démons qui sont utilisés ou Satan qui font partie de ce catalogue-là. Mais en fait, tout participe à une seule et même catégorie qui est ce qu'on appelle les anges. Et les anges, le mot en hébreu ou le mot en grec ont exactement la même signification, c'est-à-dire ce sont des messagers de Dieu. Et c'est le terme générique qui est utilisé un petit peu pour ces êtres qui sont créés dans le monde invisible. C'est ce qu'on appelle les anges, en hébreu comme en grec. C'est exactement la même chose. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que ça n'a pas simplement été un sujet qui a intéressé quelques personnes dans la Bible ou qu'on observe un petit peu sous la plume de certains auteurs. En fait, ce sujet des anges, on le trouve dès le livre de la Genèse et on y va jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et je ne dirais peut-être pas dans tous les livres, parce qu'il y a seulement 17 livres dans l'Ancien Testament et 17 dans le Nouveau Testament qui en parlent. Mais regardez, notez quand même que la mention de ces êtres célestes du monde invisible est quand même importante. Je ne vais pas en tirer non plus une conclusion sur un petit peu le nombre de mentions des anges dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui est plus court, mais on verra quand même qu'il y a une réalité que nous devons prendre en compte par rapport à ce monde invisible qui est extrêmement présente dans le Nouveau Testament, parce qu'en fait, l'œuvre de conquête, l'œuvre de victoire de notre Seigneur Jésus-Christ inclut aussi la victoire et le combat sur le monde invisible. Donc en fait, toute la Bible en parle et c'est quelque chose qu'on retrouve pas simplement comme une figure littéraire, pas simplement comme un dada de certains auteurs, mais littéralement tout le monde en parle. Alors en fait, comment est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu la nature de ces êtres spirituels? Et ici, il y a quatre points que peu de théologiens en fait vont les remettre en question, mais peuvent se regrouper un petit peu comme suit. Premièrement, ce sont des êtres créés. D'accord ? Il n'existe pas un certain nombre d'êtres spirituels autour de Dieu et que Dieu serait grand de tous ces êtres spirituels qui voltigent dans les lieux célestes. Il est bien clair d'après les Écritures que ce monde et ces êtres font partie de la création de Dieu. Il est dit par exemple, et ça on glane dans quelques textes, par exemple au psaume 148, « Louez-le, vous tous ces anges !» Louez-le, vous toutes ses armées, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Ou alors, pour prendre dans le Nouveau Testament un texte encore plus radical, celui qu'a cité aussi Philippe tout à l'heure dans l'Épître aux Colossiens, c'est en Jésus-Christ qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. La deuxième chose, c'est que ces êtres, bien que quelquefois ils peuvent revêtir une forme qui est perceptible par les hommes et ressembler peut-être à des êtres humains, il n'empêche que ce sont des êtres qui sont immatériels d'après ce qu'on sait. si on lit dans le premier chapitre du livre aux Hébreux, il est dit, en effet, que sont les anges? Là, on a au moins une question à laquelle on va trouver une réponse. Ce sont des esprits aux diverses fonctions envoyées en service pour aider ceux qui sont venus, qui vont hériter le salut. Ce sont des esprits. Et dans le Nouveau Testament, le mot esprit s'oppose aussi ou complète le mot chair ou nature. Ou alors dans l'Épître aux Éphésiens, ce texte que lisait Philippe tout à l'heure, où il nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre des airs de chair et de sang, mais contre les puissances et les autorités et tout ça. Et là, on a cette opposition un petit peu entre ce qui est chair et sang, des êtres comme vous et moi, et de l'autre côté, des êtres qui n'ont pas nécessairement un corps, ou qui n'ont pas du tout un corps comme le nôtre, et qu'on ne peut pas voir dans le monde physique, mais qui sont dans le monde invisible. La troisième, c'est que ce sont des êtres qui sont dotés de volonté et de jugement, et on y reviendra certainement la prochaine fois aussi, c'est que ces êtres ont pu, eux aussi, à un moment ou à un autre, se rebeller contre Dieu, et dire tout simplement, Dieu, non, je ne reconnais pas ton autorité. Et d'autres, plutôt, ont persévéré dans l'obéissance et sont restés aux côtés. Et comme nous, lorsque nous faisons nos propres choix envers le Seigneur et faisons preuve de volonté et de jugement, de même, ces êtres invisibles peuvent faire preuve de volonté et de jugement. Et puis dernièrement, peut-être plus pour l'anecdote et tout ça, mais quand même, ce sont des êtres qui apparemment auraient une intelligence et une puissance qui serait à bien des égards supérieure à celle de l'être humain. Et encore une fois, on tire ça simplement de quelques versets à droite et à gauche. Mais par exemple, au psaume 103, « Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. » Ou alors Pierre, tout simplement, qui, en parlant d'un autre sujet, il dit « Les anges eux-mêmes, qui sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance aux hommes. » Alors, qu'est-ce qu'on en fait exactement? Quelle importance est-ce que ça a? On ne le sait pas toujours. Mais il n'empêche que ce sont des êtres que le Seigneur a dotés de capacités assez extraordinaires. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en dire par rapport à leur nature. Encore une fois, c'est tiré à droite et à gauche de plein de textes différents. Il n'y a pas nécessairement un texte qui va décrire exactement ce que sont les anges. Mais il n'empêche que si on essaye de glaner et de rassembler tout ce qu'on peut apprendre sur les anges, voilà à peu près ce qu'on peut en tirer par rapport à leur nature. Mais encore une fois, peut-être la chose importante, c'est de ne pas penser que les anges sont simplement des représentations ou des symboles de forces qui s'exerceraient quelque part dans le cosmos. Ce sont effectivement des êtres créés par le Seigneur. Mais en fait, il y a d'autres choses qu'on peut essayer de savoir à propos de ce monde. Vraiment, la question, quand ont-ils été créés? Combien sont-ils? Ça, c'est une grande question qu'on s'est toujours posée. Et puis, à savoir, est-ce qu'il y a des catégories ou des différences d'anges? Alors, la question à savoir, c'est quand ils ont été créés? Là aussi, on se pose la question, si ce sont des êtres qui ont été créés et font partie de la création de Dieu, un certain nombre de versets qui nous parlent de la création peuvent quand même nous dire que les anges ont dû être créés au moment où le Seigneur a créé et fini sa création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création supplémentaire par la suite d'anges une fois que la création physique a été terminée. Parce que si on lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, il nous est dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Et là, si on prend en considération encore une fois que la création est terminée en elle-même, même si elle continue à vivre de par les forces que le Seigneur lui a données, on doit se dire, les anges ont donc été créés au moment de la création et qu'il n'y a pas nécessairement une création supplémentaire qui continue par la suite. Alors si on se dit, très bien, les anges ont été créés au moment de la création, ou dans la création, parce que dans le texte de la Genèse, on ne voit pas exactement à quel moment les anges auraient pu être créés. Mais un verset du livre de Job nous dit « Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans les champs d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie ?» Alors là, on rentre un tout petit peu dans de la spéculation. Mais c'est là où on se dit, très bien, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 1, il nous est parlé de Dieu qui crée le ciel et la terre. Mais dès qu'on arrive au verset 2, on se focalise sur la terre, sur peut-être ce monde visible. Et certains se disent, très bien, si à partir du verset 2 jusqu'à la fin du récit de la création, on ne parle pas des anges, mais que ce texte ici de Job nous dit qu'au moment de la création du monde physique, les anges éclataient de joie, certains se disent qu'entre le verset 1 et le verset 2 du chapitre 1 de la Genèse, c'est le moment où les anges ont été créés. Alors je me suis permis de vous en parler ce matin, pour moi c'est un tout petit peu, bon d'accord, c'est de la curiosité pour savoir, mais il n'empêche, il est toujours bon de savoir que les anges font partie de la création de Dieu. Il n'y a pas eu une création qui aurait été différente de celle qui nous est rapportée dans le livre de la Genèse. Et tout simplement qu'il y a un moment ou un autre, Dieu les a créés. Combien sont-ils ? Là aussi, on peut se poser la question, non pas simplement parce qu'au cours de l'histoire, l'homme s'est beaucoup posé de questions là-dessus. Il y a eu une spéculation à un moment, vous savez exactement, c'est-à-dire combien d'anges est-ce qu'on pouvait mettre sur la tête d'une épingle ? D'accord ? Ça a été une question qui a préoccupé des gens. Ils ont essayé de compter. Au XIVe siècle, on est même arrivé, certains ont réussi, alors je ne sais plus exactement comment, mais à dénombrer le nombre des anges qui aurait été de 301 655 722. C'est une discussion qui a eu lieu au XIVe siècle, et par le croisement de certains textes, etc., et tout, il serait arrivé à ce chiffre-là. Mais il n'empêche que la Bible nous dit quand même quelque chose à leur sujet et au nombre. Et même si c'est de l'ordre de la spéculation, il n'empêche que la Bible nous parle d'un corps céleste, nous parle d'armée. Il y a même dans certains textes, comme dans les psaumes, où il est parlé de dizaines de milliers d'anges qui se sont présentés. Il nous est parlé au moment où Jésus est né que tout d'un coup il y avait une myriade d'anges dans le ciel qui chantaient. Jésus, au moment où il est arrêté, dit à Pierre, mais tu sais, j'aurais pu faire appel à 12 légions d'anges. Et puis l'Apocalypse nous parle de centaines de millions, ou pardon, même le livre de Daniel nous parle de centaines de millions d'anges. Et l'Apocalypse aussi nous parle d'un nombre extraordinaire d'anges qui sont autour du trône et qui louent le Seigneur. Donc là encore une fois, on n'est pas simplement dans un tout petit groupe comme les 12 de Jésus ou simplement l'archange Michel ou quoi que ce soit, mais semble-t-il, il y a une armée céleste d'anges que Dieu a créée. La question ensuite des catégories, là aussi, c'est pas tellement que ça nous a beaucoup préoccupés en tant qu'êtres humains, mais sauf qu'on remarque quand même que dans les anges, certains ont des fonctions particulières. Et lorsqu'il est dit dans l'Épître aux Colossiens, là au chapitre 1, il nous est parlé de trône, de domination, de principauté, de puissance. C'est pas tellement que les mots soient des synonymes les uns des autres, mais font référence quand même à des types différents d'anges. Il nous est parlé aussi que le retour du Seigneur sera précédé par la trompette qui sera sonnée en fait par l'archange. Le premier des archanges. Archange, littéralement, signifie le premier des archanges. Et puis ensuite, on a un certain nombre d'anges, comme l'ange Michel, qui, semble-t-il, sont des anges un petit peu spéciaux que le Seigneur utilise. Je ne dirais pas les forces spéciales, mais presque. Du Seigneur pour des tâches tout à fait particulières dont on lit, par exemple, dans le livre de Daniel. Ou dont on parle là au moment du retour du Seigneur. Donc encore une fois, on n'est jamais arrivé à faire une sorte de catégorisation des anges, mais il n'empêche que là-dedans, il peut y avoir des anges qui exercent des fonctions différentes ou qui ont des rangs différents devant le Seigneur. J'en viens maintenant à ce qu'on peut parler un petit peu de la mission des anges, et là de nouveau aussi, peut-être en glanant un petit peu toute l'information biblique, de le rassembler dans trois points différents. Le premier point, qui est peut-être celui qui ne dérive pas tout de suite du mot « messager », mais c'est celui que les anges glorifient le Seigneur. Et là, si vous avez lu certains textes des psaumes, de Job, de certains prophètes de l'Ancien Testament, mais après de nouveau sous la plume de Paul ou de Jean, on se rend compte que, en fait, les anges sont là pour glorifier le Seigneur. Et le psaume 148, là, nous le dit, « Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. » Et dans l'Apocalypse, on retrouve plusieurs textes où les anges eux-mêmes participent à la louange qui est apportée au Seigneur. Et il semblerait que peut-être l'une des principales fonctions ou missions des anges, c'est de se tenir en la présence de Dieu pour le louer, pour sa grandeur, pour la beauté de sa nature, mais aussi pour la grandeur de sa bonté envers les hommes. Et plusieurs textes nous disent, non pas que les anges sont jaloux, mais que les anges plongent leur regard dans ce que le Seigneur fait à l'endroit des hommes et le glorifient. Et pour nous, le contraste ici aussi est important entre les anges et les hommes. Parce que nulle part est-ce qu'il nous est dit que les anges ont été créés à l'image de Dieu. Donc quelque part, dans leur infériorité, ils glorifient le Seigneur aussi pour la bonté qu'il a manifestée envers nous en nous créant à son image. Nulle part est-ce qu'il est dit que tout simplement les anges jugeront les hommes, mais plutôt il est dit que les hommes jugeront les anges. Et donc, les anges se tiennent en la présence de notre Dieu pour le glorifier de son œuvre, qu'elle soit dans sa création ou qu'elle soit dans son œuvre de rédemption envers les hommes. L'autre chose aussi qu'ils servent pour nous, nous semble-t-il, c'est aussi d'exemple. Et lorsque les prophètes, ou que ce soit le prophète Ésaïe ou par exemple l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, parlent de la façon dont les anges sont en train de glorifier le Seigneur, il y a quelque part un exemple qui nous est donné. Ces anges qui crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et si cet exemple nous est donné de la cohorte céleste, à combien plus grande raison est-ce que nous devrions aussi entrer dans un mouvement de louange à la grandeur de qui est notre Dieu et de son œuvre ? Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il prie en disant « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Il nous précède dans cette louange et nous invite aussi à les suivre. Mais aussi comme exemple, le Seigneur nous le donne aussi, parce que lorsqu'il nous apprend à prier dans le Notre Père, il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi cette volonté qui est exécutée et qui est faite au ciel? C'est la volonté qui est exécutée, c'est l'obéissance des êtres célestes qui se conforment à la volonté du Seigneur dans la perfection la plus belle qui puisse exister. Et le Seigneur nous demande de prier que cette volonté se manifeste sur terre, dans notre monde, comme elle l'est dans le monde invisible. Ainsi donc, les anges et leur comportement peuvent nous servir d'exemple dans la louange et dans l'obéissance. Et puis, et c'est là où peut-être souvent on s'arrête plus rapidement là-dessus, ils exécutent la volonté du Seigneur. Alors évidemment, là, en revenant au terme littéral, au sens littéral du mot ange en grec et en hébreu, qui signifie messager, et là, vous vous souvenez de nombre d'exemples, que ce soit auprès de Marie, auprès de Gédéon, etc., où des anges se manifestent pour parler et annoncer la volonté du Seigneur. Mais à d'autres instants, ce sont des êtres qui exécutent la volonté du Seigneur. Le grand combat que l'ange Michel mène dans le ciel, c'est un combat contre l'adversaire. Il est en train d'exécuter l'œuvre du Seigneur. L'ange qui se présente en Égypte pour mettre en œuvre les 10 plaies, ou plutôt la 10e, c'est exécuter la volonté du Seigneur. Et puis, ce texte que je citais tout à l'heure, c'est que le retour du Seigneur, lui, sera précédé aussi par le son de la trompette et des anges qui l'annonceront. Enfin, je reviens et je m'étends un tout petit peu sur le même point dont parlait Philippe tout à l'heure, notre rapport à eux, mais peut-être plus en se focalisant sur les anges eux-mêmes. C'est la première des choses, c'est de simplement prendre conscience que ce monde existe. Parce qu'il fait partie de la création de Dieu, mais aussi, et nous le verrons, a un impact sur notre propre vie. Et de là, de se dire très bien, si les anges eux-mêmes, dans leur respect pour le Seigneur, le louent à ce point-là, se tiennent en sa présence, à quel point est-ce que nous devons, nous aussi, peut-être nous inspirer de cela. Et de ne pas oublier, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, que lorsque nous nous approchons du Seigneur, c'est avec ces milliers d'anges, en fait, que nous le faisons. Que lorsque nous avons l'impression que nous prions tout seuls dans le secret de notre chambre, c'est non seulement avec ceux qui nous ont précédés dans la foi que nous le faisons, mais c'est aussi en présence de ces êtres célestes qui, eux aussi, s'associent à notre prière et à notre louange. Nous ne sommes jamais seuls dans notre louange envers le Seigneur, mais nous sommes toujours accompagnés ou faisant partie d'êtres célestes, mais aussi humains, qui glorifient le Seigneur. Mais il nous est aussi dit à plusieurs endroits que les anges, en fait, jettent des regards sur le comportement des hommes. Les anges nous observent, pour quelque raison que ce soit, ils nous observent. Et ils voient tant bien ce que nous faisons de bien comme nous faisons les choses qui sont mauvaises. Et c'est là aussi où nous devons nous dire que lorsque nous nous comportons à la gloire de notre Seigneur, il y a aussi d'autres êtres créés qui s'en félicitent et qui reconnaissent et qui louent le Seigneur pour cela. Mais de même, lorsque nous nous comportons d'une façon qui est indigne de notre appel, les anges là aussi doivent se dire « Mais pourquoi ?» Pourquoi ? Et eux-mêmes de se dire à quel point cela doit être décevant pour notre Seigneur de voir ces créatures se rebeller contre lui. Et puis, les textes bibliques nous l'autorisent aussi, c'est que le Seigneur utilise ses anges pour exécuter sa volonté en faveur des hommes. Que ce soit par exemple le cas où Pierre a été libéré de la prison, mais il arrive que des anges interviennent dans notre propre vie et que lorsque nous sommes dans des situations où nous avons l'impression d'avoir été délivrés de façon extraordinaire, peut-être le Seigneur a-t-il fait usage ou a-t-il envoyé un ange pour être là pour nous aider à ce moment-là. Les textes ne nous l'interdisent pas. Mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de mises en garde à prendre en compte que les textes nous rappellent aussi. La première, c'est que un certain nombre de fausses doctrines peuvent être enseignées et peuvent nous parvenir par l'action du monde invisible. Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, Paul, qui est en train de s'arc-bouter contre une mauvaise interprétation de l'Évangile, dit « Si quelqu'un, même nous, ou même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. » Et je crois que l'apôtre ne fait pas simplement ici usage de figures de style. Je crois bien qu'il a conscience que des êtres célestes, comme il nous est dit ailleurs, se déguisent en anges de lumière pour nous conduire dans de mauvaises voies. Et c'est là où il nous faut faire attention, des choses qui peuvent être séduisantes. Si les anges sont supérieurs en puissance, en beauté, en intelligence, ne sont-ils pas capables de nous décevoir et de nous conduire dans des chemins qui ne sont pas ceux du Seigneur. Ensuite, ne pas les adorer, ni les prier, ni les invoquer. Je crois qu'au cours de l'histoire, on a très peu eu tendance de tomber dans ce piège-là, mais il peut-être exister. Parce que prenez par exemple ce qui s'est passé dans le livre de l'Apocalypse, là où Jean reçoit cette révélation. Et là, il dit, alors je me prosternais aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Et les anges eux-mêmes repoussent l'adoration des hommes en disant, non, nous ne sommes simplement que les compagnons dans cette œuvre. Et c'est là où il nous faut nous rappeler que ce soit pour les anges, pour les saints et pour la Vierge Marie, que devant Dieu, il n'existe qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et nulle part dans les Écritures est-ce que nous ne sommes invités à rechercher la présence ou la manifestation des anges dans notre propre vie. Peut-être la seule chose, c'est tout simplement de reconnaître que peut-être le Seigneur a utilisé des anges lorsque nous avons eu un moment où nous avions besoin d'une délivrance particulière et on a l'impression que cette délivrance était vraiment extraordinaire. Et donc là, de se dire et de reconnaître que le Seigneur a probablement fait usage d'anges en notre faveur. Alors voilà, je suis resté un petit peu à des choses relativement factuelles, mais je pense qu'avec ce que Philippe et moi avons décrit aujourd'hui, ça situe un tout petit peu le cadre dans lequel en fait une autre histoire, ou une grande histoire, est en train de se passer et qui explique pourquoi le Nouveau Testament se penche peut-être davantage là-dessus, c'est que dans ce monde invisible se passent des choses absolument extraordinaires mais extrêmement cruciales pour le salut des hommes. Et ça, la prochaine fois, dans un mois, nous aurons le fin mot de l'histoire. Jean-Paul, je te laisse.
Pierre, c'est la pression, t'as vu, hein ? Je ne sais pas si on aura le fin mot de l'histoire. On aura en tout cas une suite de l'histoire. Voilà, en attendant, j'aimerais partager avec vous les annonces pour la semaine. Il y a plein de choses qui reprennent, qui vont reprendre. Demain, 20h30, lundi, réunion pour la suite du club, la reprise du club. C'est fini l'été, c'est fini le club d'été. C'est chez Rebecca Emmanuel à 20h30. Mardi, réunion préparation Noël. C'est pas loin Noël, hein ? Vous allez voir comme ça vient vite. Notre fête de Noël est de très bonne heure. Elle est le premier week-end de décembre. Donc, on va discuter mardi de ça aussi, de la préparation de Noël. C'est important pour cette réunion de mardi. C'est pas une réunion où vous allez vous faire piéger en disant, ben, puisque vous êtes là, vous prenez en charge ça ou ça. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on y met. Quel est le but de notre fête de Noël, qu'est-ce qu'on y met, comment est-ce qu'on partage cela, comment est-ce qu'on articule cela. Il y a déjà une réflexion qui est démarrée, des filons, des choses comme ça, donc c'est important. Et moi j'invite ceux qui étaient engagés dans les années passées, mais dans les années passées et avant les années passées, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, la fête de Noël, de réfléchir aussi et de peut-être de venir participer, c'est intéressant aussi. Voilà. Samedi, reprise du groupe de jeunes. Dimanche, Emmanuel l'a dit déjà, reprise des écoles du dimanche. Donc les enfants iront à l'école du dimanche. Pour les semaines qui viennent, week-end du 15 et 16, c'est notre week-end sortie d'église au col des Mosses. Il y a le tableau au fond, on l'a mis dimanche passé, mais il faut le remplir rapidement. On a besoin sur ce tableau, d'abord que vous mettiez qui, si vous venez au col des Mosses, combien vous êtes, et puis dans les colonnes de gauche, que vous mettiez là où vous êtes disposé pour vous engager pour faire les repas, simplement. Voilà, c'est un week-end ouvert à tous, et on veut vraiment se réjouir aussi de partager ce temps. On vous annonce une autre réunion encore, le jeudi 25 septembre. Jeudi 25 septembre, en soirée, on aura une réunion de membres où on avancera sur le projet de l'Église. C'est un mardi, excusez-moi. Oui, c'est un mardi, c'est juste. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit jeudi. On l'a mis un mardi, effectivement. C'est mardi 25, merci de me reprendre. Mardi 25, donc, et on voudrait vous faire part de l'avancement du projet d'Église. Donc. Voilà, important de garder cette date aussi. Oui. Et oui, ça va dans le même cadre, donc, hein, aussi de l'avancement de notre réflexion quant au problème pastoral. Et puis, on a posé avec les anciens un tas de dates pour des activités dans l'année, des dates qu'on a réservées. Donc, c'est important aussi pour les responsables d'activités. Et ça, on va le mettre sur le site cette semaine. Et puis, peut-être, on l'affichera au fond, simplement pour que chacun puisse aussi le noter. Voilà, je n'ai pas d'autres annonces, est-ce qu'il y a d'autres choses à partager comme annonces? Prions, pensons à la rentrée, prions les uns pour les autres, pour tout un tas de sujets. Je crois qu'on a vraiment besoin de prier vraiment les uns pour les autres, pour qu'on retrouve chacun notre place dans l'Église. Priez pour les personnes qui ont la responsabilité du culte, prier pour les personnes qui reprennent les activités, pour les moniteurs d'école du dimanche, pour les enfants qui seront confiés ici, pour les programmes, pour toutes ces choses. Et puis, on se retrouve dans dimanche prochain ici pour le culte, bien sûr, et puis dans 2 semaines au col des Mosses. Donc, je vous invite à vous lever, je vous lis encore quelques versets. On a déjà lu une partie de ces versets ce matin. Dans cette idée de ces anges, et vous avez vu, dans cette partie d'être spirituel, il y a aussi Satan, il y a aussi les démons, et c'est vrai que souvent on a peur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas. Et dans le verset qu'on nous a lu, que ce matin Emmanuel nous a lu dans Ésaïe, on trouve ces choses-là, et peut-être on pourrait les garder pour nous, pour nous encourager. C'est à la fin, au milieu du chapitre 41 d'Ésaïe. D'abord, on trouve ce verset. Emmanuel a lu juste après, mais on trouve ce verset. « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi. » Ça, c'est pour chacun de nous. « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi. » Et non pas rejeté. Et la suite qu'on nous a lu ce matin, et c'est pour nous, pour les jours, les semaines, les mois qui viennent. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis. » Je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Amen. Que Dieu vous garde chacun. Merci, à bientôt, à dimanche en tout cas.